C'est un auteur capital, philosophe, économiste, journaliste, tout ceci indissociable de son activité révolutionnaire.
C'est un exalté.
Sous le couvert d'une revue philosophique, il n'aspire à rien de moins, avec ses complices, que de susciter une révolution en Europe.
Prénom ?
Karl.
Nom ?
Marx.
Sa date de naissance ?
Mai 1818 à Trèves, en Allemagne, d'une famille libérale d'origine juive convertie au protestantisme.
Ses études ?
Docteur en philosophie, en 1841, il n'obtiendra pas de chaire universitaire. Et ses ressources, toujours incertaines, proviendront du journalisme d'idées qu'il va pratiquer dans des publications souvent surveillées de très près par les polices européennes.
Une famille ?
Oui, grâce à sa femme Jenny, une famille nombreuse qu'il nourrit et soigne à grand-peine.
Il a des pays de prédilection ?
Oh bah attention, il n'y est pas nécessairement le bienvenu. Outre l'Allemagne, la France, où il séjourne par deux fois dans les années 1840 et où il découvre un socialisme foisonnant et individualisant qu'il juge bien inopérant. L'Angleterre, bien sûr. Le socialisme lui en paraît trop réformiste et légaliste, mais c'est le pays qui va l'abriter le plus longtemps. Il est un lecteur infatigable de la British Library. Et sur le tard, il s'intéressera de plus en plus à la Russie.
Sa vie militante ?
Il est à la fois l'intellectuel invité du mouvement ouvrier international et son inventeur. Il participe de près à la direction de la Première Internationale à partir de 1864.
Ses grandes œuvres ?
De courts textes percutants, inspirés par les révolutions de 1848 et de 1871, le manifeste du Parti communiste avec Engels et le Capital, évidemment, dont le premier tome paraît en 1867. Les livres suivants seront posthumes et l'édition en sera assurée par le camarade numéro 1, Engels. Non seulement le Capital sera beaucoup traduit, diffusé, abrégé, mais il va relancer la circulation de ses livres précédents.
Et sa mort ?
Londres, mars 1883.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier Karl Marx, ici, à Blois ?
J'en profite, après votre question, Audrey Ripouille, pour expliquer un peu comment se déroule l'émission. Nos auditeurs ici, à l'auditorium de l'abbé Grégoire, rendez-vous de l'histoire à Blois, ne vous ont pas vu, mais vous êtes dans une cabine tout à fait au sommet de la salle où nous nous trouvons, et c'est du ciel d'habitude, que tombent les questions d'Audrey Ripouille. Et moi, depuis la tribune, j'essaye de répondre, c'est le grand initiateur, Karl Marx. Il était à l'aise au 19e siècle, un peu comme un poisson d'or. Dans l'eau. On ne va pas parler du marxisme, prophétie politique qui a connu quelques déconvenues au XXe siècle, mais nous allons revenir sur la réflexion sur le travail de Marx pour voir si elle est valide au XXIe siècle. Et je serai en compagnie, ainsi que le public de Blois, de Jean Numa Ducange. Bonjour.
Bonjour.
Alors on peut parler de Marx, disait Raymond Aron, qui a beaucoup travaillé sur lui avant vous, en 5 minutes, 50 minutes.
50 années aussi.
50 années, vous n'en êtes pas encore là, mais
non,
vous avez publié récemment au PUF Marx de A à Z, et vous pilotez avec d'autres une grande histoire, une histoire globale des socialismes, aux mêmes éditions, et qui a beaucoup de succès déjà dans les travées du Salon du Livre de Blois. Mathieu Arnoux, bonjour. Direction d'études à l'École des hautes études en sciences sociales sur le travail dans l'Europe pré-industrielle. Alors, ça vous amuse de venir participer à cet exercice un peu formalisé ?
Oui, je me suis demandé dès le début pourquoi j'étais là. Donc maintenant, j'attends les questions. Ouais. La procédure de l'interrogatoire me semble une bonne procédure.
Première question, comment était le travail à l'époque d'Adam et Ève ? Est-ce que ça intéressait Karl Marx ?
Alors, c'est une question tordue, mais on va la redresser. Sur le travail dans le paradis, Il y a un texte d'un père de l'Église qui est le plus important de tous les pères de l'Église, qui est saint Augustin, dans un traité qui n'est plus le plus lu aujourd'hui, mais qui a laissé des centaines de manuscrits et qui a été la source de ce qu'on appelle la glose de la Bible, c'est-à-dire le truc, l'antisèche pour les sermons sur l'Écriture. Et dans ce commentaire, il y a un passage tout à fait étrange qui est son analyse d'une phrase de la Genèse qui est « Dieu donna le paradis à Adam pour le travailler ». Et exactement comme s'il ne payait se payait notre tête, Augustin dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'Adam travaille au paradis ? Moi, on m'avait expliqué que le travail était le résultat du péché originel ». Et il va dire, ben non, tout le monde se trompe, donc Augustin en particulier, parce que le travail au paradis, c'est magnifique. Le travail au paradis, c'est simplement la continuation de la création par d'autres moyens. Et que c'est, alors disent de manière assez étrange les traducteurs jésuites dans la petite collection des œuvres complètes de saint Augustin, c'est assez curieux, on a l'impression que le travail selon saint Augustin, c'est le travail non aliéné selon Karl Marx.
Ouais, le travail artiste, un peu Jean-Numa Ducange. On fait un peu ce qu'on veut, la cueillette, la chasse, la discussion.
Oui, il y a toute une part de l'œuvre de Marx qui est assez utopiste là-dessus. Alors, le jeune Marx est un philosophe qui veut sortir de la religion, donc les référents religieux à proprement parler n'apparaissent pas dans son œuvre, si ce n'est pour les critiquer. En revanche, effectivement, là où il y a des choses en commun avec ce qui vient d'être rappelé, c'est que dans un de ses manuscrits non publiés de son vivant, qu'il a co-rédigé donc avec son ami Engels, l'idéologie allemande en 1846... Donc après son séjour parisien, où il avait rencontré beaucoup d'utopistes et de socialistes français, eh bien, il imagine un peu ce que ça pourrait être la société communiste. Il n'y a pas beaucoup de textes où il décrit cela, mais là, il imagine ce que ça pourrait être un homme qui retrouve finalement l'état antérieur au travail industriel, même au travail agricole, qui pourrait aller pêcher tant d'heures par jour, cueillir, un petit peu travailler, une sorte de répartition du temps de travail un peu idéal. Alors, il ne rentre pas dans les détails, mais il est clair que cette pensée-là, cette mentalité-là, traverse son œuvre. On pourrait le rapprocher d'une certaine manière d'autres courants, même des courants politiquement plutôt hostiles à Marx, au romantisme allemand, où tout ça traverse la pensée. Donc c'est assez important.
Ou à la pratique du public des rendez-vous de l'histoire qui va glaner comme ça.
Tout à fait. Deux heures par-ci, deux heures par-là, absolument.
Alors, les époques du travail telles que les organise Mathieu Arnoux, je vous laisse la parole.
Juste pour rajouter qu'il y a une autre boucle de cette histoire d'Adam au paradis qui réapparaîtra sous la plume de Engels. C'est le mot d'ordre des réfugiés des paysans révoltés des sexes en 1381, qui sera aussi le mot d'ordre des paysans allemands soulevés en 1520, quand Adam bêchait et quand Ève filait. Qui était le Seigneur, qui est simplement une réduction en deux lignes du traité de Saint-Augustin.
Alors nous allons parler des paysans, et des paysans à l'époque que vous dites, et des paysans à l'époque qui a suivi dans l'ordre féodal. Il y a les oratores qui prient, les bellatores qui combattent, et les laboratores. Et il y a longtemps des biens communs, vous savez, je parlais du glanage des publics de Blois. Ben, on glane le bois mort, on laisse le bois vert à la collectivité pour qu'elle le voie pousser et qu'elle organise son travail autour de lui. Et 15e, 16e siècle, Marx identifie un changement très important. Ça s'est passé en Allemagne sous ses yeux, ça s'est passé, Jean-Numa Ducange, en Angleterre auparavant. C'est quoi, la privatisation des biens communs?
Oui, ça s'est passé effectivement en Angleterre d'abord, mais le Marx des années 1840, une des raisons de sa politisation, c'est tout simplement ce qu'il observe dans l'Allemagne de sa jeunesse. Et parmi les choses qu'il observe, effectivement, il constate que les progrès du développement industriel, aussi relatifs et infimes soient-ils dans l'Allemagne où il évolue, eh bien, ont tendance à remettre des biens communs qui étaient partagés donc par les paysans pendant longtemps et qui sont donc grattés, si je puis dire, par le développement industriel. Et un de ses premiers textes politiques importants porte là-dessus. Alors évidemment, après, on peut constater avec le recul que ce qu'il dit sur tel ou ou tel point, et pas la vérité historique, si je puis dire, mais en revanche, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour Marx et pour toute une série de socialistes de l'époque. Tout ce qui restait de commun, même issu de l'Ancien Régime, a tendance à disparaître.
À être privatisé. Exactement. Et du coup, ben, les paysans se trouvent expropriés par des usurpateurs, leurs maisons, leurs cottages violemment rasés. Voici qui nous tombe du ciel, enfin je veux dire de la cabine de la salle de l'abbé Grégoire à Blois, la vision prémonitoire, c'est pas un texte de Marx, de Thomas More, grand homme d'État anglais.
Dans toutes les régions du royaume où se produit la laine la plus fine et donc la plus précieuse, les nobles et certains généreux abbés, saints personnages, insatisfaits des rentes et récoltes que leur domaine assurait chaque année à leurs ancêtres, non content de vivre dans le luxe et l'oisiveté sans rien faire pour la communauté que de lui nuire, anéantissent les champs, clôturent les prés, détruisent maisons et villages, ne conservent que l'église en guise d'étable pour leurs moutons. Et comme s'il n'y avait pas chez vous assez de garennes ou de terrains de chasse, ces hommes de bien transforment en désert des lieux jusqu'ici habités et cultivés. Ainsi, pour qu'un seul goinfre insatiable, véritable plaie de sa patrie, entoure d'une haie 1000 acres de terre d'un seul tenant, les paysans seront chassés, dépouillés de leurs biens par la tromperie ou par la force, à moins que, recrues d'injustice, ils ne se résignent à tout vendre. De toute façon, ruinés, ils partent. Hommes, femmes, ménages, orphelins, veuves, parents chargés d'enfants, une famille plus nombreuse que riche, quand le travail de la terre demande tant de mains. Ils partent, abandonnant maison, foyer et habitudes, sans nul lieu pour les recevoir.
C'est que maintenant, Mathieu Arnoux, la laine entre dans le circuit des échanges, et c'est ça le moteur de ces expropriations.
Alors c'est un choix très 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 décidé de faire prévaloir le marché international de la laine sur les activités autochtones, de mettre clairement en faillite les producteurs de draps anglais parce qu'ils ne sont pas dans la clientèle des amis du roi. Et puis de fabriquer des exploitations gigantesques. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce texte dans lequel il dit on fait des troupeaux d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue. Il dit et certains d'entre eux ont développé des épidémies étranges. Et il semble que ce soit la première attestation de la tremblante du mouton, la grand-tante de la vache folle, qui est que Thomas More attribue très précisément à l'avidité qui fait augmenter de manière déraisonnable les troupeaux.
Je parlais des trois pays de prédilection de Karl Marx, l'Allemagne, Jean-Numa Ducange l'a cité, l'Angleterre, vous venez d'analyser ce qui se passe au 15e, 16e siècle. En France, les procédures de privatisation des biens communs ont été plus marginales, moins spectaculaires, et les paysans parcellaires, enfin ceux qui exploitent des petites propriétés, ont semblé longtemps dominants. Alors voici un texte de Karl Marx interprété, lu au pupitre de l'abbé Grégoire par Jacques Sigal. Jacques Sigal, c'est notre ancien réalisateur qui a précédé Audrey Ripouille. Et on l'a choisi parce qu'il accepte de travailler bénévolement. Et puis, il a la tête et l'âge de Karl Marx.
Les paysans constituent une masse énorme dont les membres vivent tous dans la même situation, mais sans être unis les uns aux autres par des rapports variés. Leur mode de production les isole les uns des autres au lieu de les amener à des relations réciproques. Cet isolement est encore aggravé par le mauvais état des moyens de communication en France et par la pauvreté des paysans. L'exploitation de la parcelle ne permet aucune division du travail, aucune utilisation de méthodes scientifiques. Par conséquent, aucune diversité de développement, aucune variété de talents, aucune richesse des rapports sociaux. Chacune des familles paysannes se suffit complètement à elle-même, produit directement elle-même la plus grande partie de ce qu'elle consomme et se procure ainsi ses moyens de subsistance bien plus par un échange avec la nature que par un échange avec la société. La parcelle, le paysan et sa famille, À côté, une autre parcelle, un autre paysan, une autre famille. Un certain nombre de ces familles forment un village, un certain nombre de villages, un département. Ainsi, la grande masse de la nation française est constituée par une simple addition de grandeurs de même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. Dans la mesure où des millions de familles paysannes vivent dans les conditions économiques qui les séparent les unes des autres et opposent leur genre de vie, leur intérêt et leur culture à ceux des autres classes de la société, elles constituent une classe. Mais elles ne constituent pas une classe dans la mesure où il n'existe entre les paysans parcellaires qu'un lien local et où la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale, ni aucune organisation politique.
Alors, on s'arrête sur deux images. On parlera de la conscience de classe des paysans. Mais d'abord, les sacs de pommes de terre. Mathieu Arnoux, vous auriez tendance à dire que Karl Marx n'a pas compris grand-chose à la paysannerie, à son travail en France.
Alors, on peut se demander ce qu'ils lui ont fait pour qu'il en parle comme ça.
Nous sommes dans le coup d'État de Louis-Napoléon, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon, donc un texte de 1852.
Voilà, ils lui ont fait quelque chose de très précis, c'est eux qui ont porté Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir.
Voilà.
Et donc un geste aussi absurde et aussi caricatural ne peut découler que d'une absence totale de conscience de classe. Il est évident que... Alors, soit il y a deux solutions. Soit il n'a jamais adressé la parole à un paysan, soit il n'est pas de bonne foi, et ça n'est pas le problème de parler de bonne foi dans ce texte-là.
La sensibilité marxiste de Jean Numa Ducange est mise à mal.
Heurté même. C'est un texte qui est écrit en trois semaines, en exil. C'est un texte de déprime politique face à ce qui s'est imposé. Vous l'avez rappelé, Marx a été plusieurs fois à Paris. Il a été accueilli, ça lui est pas arrivé beaucoup de fois dans sa vie, à bras ouverts par le gouvernement provisoire de la Deuxième République française au tout départ. Il a été invité par Ferdinand Flocon. Donc il avait misé beaucoup de choses sur la France, pays des révolutions, et il avait misé beaucoup sur le dénouement de la révolution de 1848. Et le dénouement est effectivement tragique avec l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. Et son propos n'est ni celui d'un historien, ni celui même d'une sociologie des acteurs de l'époque, chose qu'il ne pouvait pas faire vu les documents dont il pouvait disposer, mais celui d'essayer de comprendre une tradition politique sur la longue durée. Le bonapartisme. Et pourquoi un phénomène comme le bonapartisme, dont il me semble qu'il reste quelques petits éléments dans la vie politique française jusqu'à nos jours, existe en France et n'existe pas, ni en Allemagne, enfin il a pu exister sous des formes encore plus tragiques à des moments donnés, mais dans des circonstances précises et pas sur la longue durée, ni en Grande-Bretagne. C'est ça qu'il y a derrière. Et par ailleurs, j'ajouterais que une partie des passages les plus caricaturaux, Marx l'a supprimé de lui-même dans une deuxième édition de son 18 Brumaire, se rendant bien compte qu'il s'était exagérément énervé contre ces pauvres paysans français qui, comment dirais-je, pour un certain d'entre eux, se sont soulevés en plus contre Louis-Napoléon Bonaparte, même si c'était très minoritaire.
Oui, parce que la capacité de révolte des paysans existe. Mathieu Arnoux soulignait l'importance de révolte, par exemple, au XIVe siècle. Mais quel contraste avec la peinture de la bourgeoisie. Mathieu Arnoux, Marx ne cite jamais Michelet, parce que le peuple dans son ensemble, ça n'intéresse pas. Dans une lettre fameuse à son camarade numéro 1, Engels, il cite un historien moins connu aujourd'hui en France qui s'appelle Augustin Thierry et qui a étudié la formation dans la longue durée d'une classe à laquelle Marx donne un peu l'avantage qu'il admire par beaucoup d'aspects parce qu'elle s'est constituée une histoire, j'allais dire glorieuse, la bourgeoisie.
Alors, Augustin Thierry, c'est le prince des historiens. C'est l'ami d'un autre prince des historiens, même si, en tant que premier ministre de Louis-Philippe, Guizot a pas une remarquable réputation, mais c'est un immense historien sous la Restauration, et il a chargé Augustin Thierry de fabriquer une historiographie française dont les monuments pour l'histoire du tiers-État seront l'un des résultats. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est à la fois une très grande œuvre d'érudition et un projet idéologique extraordinairement cohérent et dans lequel le mot de lutte des classes apparaît absolument.
Alors la bourgeoisie va faire travailler la masse, les masses, pour le bénéfice de ses membres pour ses loisirs. Nous entrons dans une nouvelle Époque.
On chassait les laboureurs des champs pour leur substituer des moutons. C'est l'usurpation violente du sol, telle qu'en Angleterre elle se pratiquait sur une grande échelle, qui prépara en premier lieu le terrain de la grande agriculture. Dans ses débuts, ce bouleversement agricole a donc l'apparence d'une révolution politique plutôt qu'économique. Sous sa forme machine, au contraire, le moyen de travail devient immédiatement le concurrent du travailleur. Le rendement du capital est dès lors en raison directe du nombre d'ouvriers dont la machine anéantit les conditions d'existence. Cette partie de la classe ouvrière que la machine convertit ainsi en population superflue, c'est-à-dire inutile pour les besoins momentanés de l'exploitation capitaliste, cette partie de la classe ouvrière succombe dans la lutte inégale de l'industrie mécanique contre le vieux métier et la manufacture, ou encombre toutes les professions plus facilement accessibles, où elle déprécie le monde du travail. Le Capital, quatrième section.
Monsieur Lebrun, les capitalistes installent l'industrie mécanique et disposent de l'argent. Et pour que leurs machines produisent des marchandises, il leur faut des travailleurs. Et ces travailleurs, il faut les payer.
Ben, c'est simple, Jean-Numard Ducange. Le travailleur ajoute de la valeur à ce qu'il produit, et il suffit de le payer au-dessous de cette valeur qu'il ajoute.
Tout à fait. C'est le mécanisme d'extorsion de la plus-value, dit Karl Marx. C'est-à-dire que, finalement, ce que reçoit le travailleur réellement ne correspond pas à tout ce qu'il a investi dans son travail. Il y a une partie qui est, entre guillemets, volée par la bourgeoisie. Bon, c'est un processus qu'il décrit à la fois très simplement dans toute une série de conférences publiques qu'il a données à des ouvriers, un travail, salarié capital, salaire prix profit, qui sont des textes encore très lisibles aujourd'hui, et qu'il analyse dans le moindre détail dans le livre 1 du Capital, donc paru en 1867. Et ce qui est intéressant dans la façon dont il décrit les choses, bon, il y a tout un aspect très économique, très précis, qui peut avoir vieilli sur certains points, mais il cherche à décrypter ce qu'il appelle les hiéroglyphes de la marchandise, les hiéroglyphes qui se cachent derrière les salaires. C'est-à-dire qu'on a des mots qui circulent jusqu'à nos jours dans l'histoire du capitalisme qui paraissent tout à fait logiques, normaux. Là, vous êtes payé tant en fonction de tant de temps de travail. La capacité qu'a Marx à analyser toute une série de choses et qui va faire qu'ensuite, effectivement, ces théories auront un certain impact, même de son vivant, dans les mouvements ouvriers organisés des années 1860, c'est qu'il cherche à montrer ce qui se cache derrière la réalité des rapports de forces sociaux, et notamment ce qui se cache derrière donc la valeur du salaire. Donc il y a une théorie de la valeur, on ne détaillera pas tout le détail ici, mais qui est très importante, qui reprend d'ailleurs aux économistes politiques du XVIIIe siècle. Il hérite de l'économie politique classique et il cherche à en faire un instrument politique pour les salariés les plus exploités, le prolétariat, c'est-à-dire ceux qui sont démunis de tout, d'après lui, à la différence des petits paysans qui avaient une propriété, ou même des artisans qui possédaient encore quelque chose, notamment un savoir-faire. C'est la décomposition de tout cela qu'il essaye de décrire, et il y voit le moyen, finalement, social et politique, de changer radicalement le monde.
Alors, plus le travailleur crée de valeur, plus la sienne propre, il n'est plus qu'une marchandise d'ailleurs, se déprécie.
Tout à fait, c'est la marchandisation du monde qui est une thématique dont d'ailleurs qui est encore dans l'espace public. Marx, avec d'autres, est un des premiers à l'analyser. C'est d'ailleurs peut-être, à mon avis, ce qui fait encore, par rapport à d'autres théoriciens socialistes de la même époque, comme Proudhon, des gens qui étaient infiniment plus connus que Marx en son temps, entre guillemets sa supériorité, parce qu'effectivement, non seulement il propose un certain nombre de points politiques, mais il cherche aussi à décrypter véritablement ce qui se cache derrière les mots. Il y a tout un travail de décryptage qui, me semble-t-il, a mieux vieilli peut-être que certaines analyses précises sur tel ou tel élément, comme on l'a vu de la paysannerie, ou tel élément même de fraction de la bourgeoisie. On pourrait reprendre ses textes quand il analyse Louis-Philippe, la fraction de l'aristocratie financière, et la bourgeoisie capitaliste, tout ça a un peu vieilli. Mais le reste,
et le fractionnement du travail. Les ouvriers ne se font pas seulement concurrence en se vendant meilleur marché les uns que les autres, ils se font concurrence par le fait qu'un seul accomplit le travail de 5, 10, 20, et c'est la division du travail introduite par le capital qui est le moteur,
Tout à fait. La division du travail, d'abord à une échelle très locale, puis à une échelle nationale, puis à l'échelle internationale, est ce qui le préoccupe dans toute une série de textes. Une des manières les plus limpides de l'exprimer est ce qu'il dit finalement dans le manifeste du Parti communiste, qu'il a un texte de 1848, donc qui est publié juste avant le déclenchement des révolutions, où il analyse finalement le rôle extraordinairement, même progressiste pour lui de la bourgeoisie, parce qu'il y a un développement fort de l'économie grâce à tout cela. Il y a un développement extraordinaire du prolétariat à l'échelle internationale, et le fait que ce prolétariat se développe extraordinairement à l'échelle internationale prépare entre guillemets sa propre chute, puisqu'il génère entre guillemets un salariat massif à l'échelle internationale comme jamais l'histoire en a connu. Et reste ensuite la question de l'organisation politique, qui est un autre problème.
Oui, on vient à y venir, mais continuons par l'organisation du travail par la bourgeoisie capitaliste, qui arrive à tendre l'élasticité des hommes, c'est un mot qu'il emploie, l'élasticité humaine. Et on abuse de la machinerie pour transformer l'ouvrier, dès son enfance, en partie d'une machine partielle. Ceci, c'est, vous allez l'entendre de nouveau, on l'a beaucoup entendu au moment de la parution de son livre « Feuillet d'usine », un témoignage de Joseph Pontus, que les hasards de la vie ont transformé en ouvrier de l'agroalimentaire breton. Il est mort prématurément, peu de temps après le succès de Feuillet d'usine.
La cadence, c'est le temps qu'on a pour effectuer chaque charge qui nous est impartie à l'usine. Donc en gros, dans toutes les usines de France et du monde, chaque ouvrier a une minute pour faire sa tâche. Sauf qu'au départ, on ne connaît pas les gestes, donc on met plus de temps, donc c'est le collègue de derrière qui doit rattraper. Et si le collègue de devant ne connaît pas assez son travail, c'est moi qui dois rattraper. Et donc ça crée des jalousies, ça crée des tensions. Et en même temps, quand le geste devient efficace, on peut faire le truc de manière un peu automatique en 45 ou 50 secondes. Aujourd'hui, en tant qu'intérimaire, heureusement, on est payé à l'heure. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de... C'est une petite avancée. C'est, au fil du temps, essayer de trouver la manière de d'en faire le moins possible, de se fatiguer le moins possible, en ayant l'air de montrer au patron que tu travailles vraiment, quoi. Moi, j'avais une petite technique, même si je bossais quand même comme un chien. À l'abattoir ou à la poissonnerie, on a des tenues blanches. Et généralement, ce que je faisais au début, c'est que je me frottais avec ma blouse blanche contre les carcasses des vaches pour avoir plein de sang. Pour faire croire au chef que j'avais vraiment bien bossé déjà avant même qu'il arrive, quoi. Parce que le chef, il arrive 2 heures après l'embauche de tout le monde. Et il me dit, ah, Pontus, la vache, t'as beaucoup poussé. Et effectivement, j'avais beaucoup poussé. Mais c'était pour m'éviter par avance des emmerdes. Un peu comme quand on cherche à ne pas voir un chef, parce qu'on sait qu'on va avoir des emmerdes de toute façon. Mais au final, qu'on fasse 10 pièces de plus dans une journée ou 10 pièces de moins, qu'est-ce que ça va changer à la face du monde? Je sais pas du tout. C'est la production qui dicte tout, c'est même pas les chefs, c'est même pas les ouvriers. C'est ce concept même de production qui fait que il faut produire coûte que coûte. Tant pis si ça va finir à la poubelle, si ça va finir au rebut, si des livres vont finir au pilon, si des vaches vont finir en croquettes animalières. Il faut produire. Et il faut montrer qu'on travaille.
J'en ai marre du Cange. Tout à l'heure, Mathieu Arnoux, notre compère à Blois, disait, il a jamais parlé à un paysan, Karl Marx. On a quand même l'impression qu'il serait capable de converser avec un ouvrier du 21e.
En tout cas, pour le coup, de son vivant, Karl Marx a rencontré beaucoup d'ouvriers et a essayé de comprendre ce qu'il se passait. Son travail sur l'analyse du capitalisme est un mélange d'enfermement à la British Library pour travailler sur de très nombreux rapports sur les enfants au travail, sur les ouvriers au travail, et des tentatives de rencontré toute une série d'ouvriers. Alors souvent, évidemment, il y a un prisme un peu déformant, des ouvriers politisés, des ouvriers qui avaient une certaine approche de la politique, mais ils cherchent à comprendre au plus près leur, comment dirais-je, leurs conditions de travail. Et parmi ces conditions, il constate un changement au cours de son existence. Au début de l'industrialisation, il y avait un mouvement très fort de rejet des machines, de destruction des machines, car ces machines apparaissaient comme quelque chose qui... C'était les tueuses de bras, comme on les appelait, c'est celles qui empêchaient finalement le travailleur de travailler normalement comme il le faisait auparavant, avant la révolution industrielle. Et il y a une mutation d'idée du travail dans le mouvement ouvrier. Il va y avoir progressivement l'idée selon laquelle l'ouvrier peut se réapproprier son travail, mais à condition qu'il y ait des organisations qui lui permettent de réduire la cadence. Là, on a entendu, par exemple, c'est intéressant, la résistance passive au travail. Il n'y a pas que les grandes grèves, les grands syndicats, les grandes organisations, les grandes explosions sociales. Il y a aussi le vécu au quotidien. Il y a une anthropologie, de ce point de vue-là, de l'analyse de l'individu au travail, qui traverse les écrits de Marx. Évidemment, ce qui va intéresser plus Marx, c'est quand même la conflictualité, ce qui permet d'aller au-delà du capitalisme actuel, mais tout de même, il y a ces modes de résistance de différentes manières qu'il cherche un petit peu à décrire et analyser. Et effectivement, toutes les premières lois qu'il y a de réduction du temps de travail, même si elles sont très relatives en son temps, il regarde ça de près pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, y compris de la part de la bourgeoisie, de reproduire la force de travail. Parce que si vous faites travailler les gens comme des chiens, et quand l'espérance de vie de certains ouvriers avant 1848 ne dépassait pas 40 ans, si je puis dire, ce n'est pas une bonne affaire non plus. Donc il y a un processus contradictoire, dialectique, aurait-il dit lui, de tout cela. Et c'est ça qu'il cherche à comprendre. C'est pas juste la méchante bourgeoisie qui exploite le pauvre prolétariat jusqu'au bout, jusqu'à la corde. C'est que tout ça va se construire et se développer dans les décennies donc qui vont des années 1840 à 1880, qui correspondent à celles de son existence.
Oui, parce que la bourgeoisie calcule, dit-il, un cheval, c'est difficile de lui faire dépasser les 8 heures de travail. Alors peut-être un enfant ? Et une femme. Oui, mais alors autour des femmes, vous parliez de conflictualité. Nous sommes maintenant, dernier extrait, dernière archive sonore, dans un film, dans une usine de Manchester. La dame qui va s'exprimer, elle est très 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 proche du camarade numéro 1, je dirais Engels.
Qui a coupé les courroies ?
Elle s'est endormie sur le métier à tisser. Résultat, elle a 2 doigts coupés. Ouais. Qui va lui rendre ses doigts ?
Ça lui apprendra à faire plus attention. On vous paye pour bosser, pas pour dormir.
Allez-y doucement. Ne les provoquez pas.
On est payé, mais combien ? Roisin a travaillé 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Et maintenant, elle a qu'à débarrasser le plancher et crever. C'est ça que vous appelez bosser ?
Silence ! Les frais de réparation seront retenus sur vos salaires. C'est tout ce que vous retirez de cette affaire. Estimez-vous heureux que je ne vous renvoie pas tous sur le champ. Réparer une machine, c'est une grosse dépense. Alors que la main-d'œuvre ne coûte rien, Manchester.
C'est pas juste. Dis-toi, voilà tout ce qui compte pour vous. Et une fois qu'on les a perdus, on est bon pour être mis au rebut, c'est ça que vous voulez dire ?
C'est cette fille qui a parlé de l'accident de Roisin. C'est elle, la meneuse.
Rappelez-moi son nom.
Je peux vous répondre ? J'ai une bouche pour m'exprimer.
Une grande bouche, à ce que j'entends.
Alors je me présente. Je suis Mary Burns. Je suis née à Tipperary. Et aujourd'hui, esclave chez Herman et Engels, une belle manufacture de Manchester, Angleterre.
Fichez-la dehors. Qu'elle a gagné son pain ailleurs.
T'as entendu le patron ? Va-t'en.
Et ceux qui veulent se plaindre n'ont qu'à partir tout de suite avec elle.
Mary Burns sera très proche d'Engels. L'autre matin, dans le métro... Un monsieur, il est gardien de nuit dans un hôtel, il sort de son travail, m'interpelle. Je sais que vous avez été proche de Joseph Pontus. Je voulais vous faire part de ma colère à cause de ce qui m'est arrivé. J'ai été victime d'un accident du travail, mais j'étais intérimaire, alors je n'ai été indemnisé qu'au prorata de la durée du travail qu'on avait bien voulu m'accorder avant l'accident. Et il me tend un témoignage écrit. Il s'appelle Joseph Bossard. Voici une partie de son texte.
Dans le cas d'un salarié intérimaire accidenté et n'ayant pu travailler que 10% du temps dans l'année ayant précédé son accident, celui-ci recevra 10% de l'indemnisation, auquel le complément de régime de prévoyance est censé ajouter 25% de l'indemnisation au-delà du premier mois. Ce qui porterait le total à 35% alors que la logique voudrait qu'il soit indemnisé à 100% comme tout autre travailleur. Derrière la froideur des chiffres, ce sont des milliers de vies humaines qui sont en jeu. Traiter un être humain comme un simple engrenage, substituable et jetable, n'est pas seulement désastreux pour lui, mais également à terme pour la société tout entière. Qu'y a-t-il aujourd'hui de plus infâme que de ne pas donner de quoi survivre à une personne rendue incapable de gagner sa vie par l'effet d'un accident pour un risque qu'on lui a fait courir, a fortiori, en l'ayant mal payé et en le privant du bénéfice de cotisations générées par son travail? Comment peut-on supporter à autrui une telle situation? Comment ne pas y voir un esclavage édulcoré, un esclavage sans l'humiliation des coûts? La joie du riche a pour substance la douleur du pauvre, écrivait Léon Blois. On ne saurait mieux dire.
Vous trouvez ce texte de Joseph Bossard. Ça s'écrit comme ça, Bossard. B-O-2-S-H-A-R-D, c'est étrange. Vous trouvez ce texte violent, Jacques Cigale?
Moi, personnellement?
Oui.
Qu'est-ce que je devrais dire alors que je ne suis pas payé ici?
Oui, mais vous êtes très protégé, vous êtes en sécurité, oui, celle-ci est parfaitement assurée. Mais il parle violemment, Karl Marx, Jean-Dumas Ducange. Il parle des vampires, il parle de Moloch.
Oui, il y a tout un imaginaire un peu shakespearien, hein, comme il est très marqué par la culture britannique, qui fait qu'il y a toutes ces images-là. Et effectivement, le monde dans lequel il évolue est d'une violence extrême, surtout par rapport à ce que nous pouvons connaître malgré toutes les inégalités sociales. Et la description qu'il fait de ces inégalités, comment dirais-je, quelque chose quand même d'un peu contradictoire. Parce que d'une certaine manière, entre le moment où il écrivait dans les années 1840 au départ et le moment donc où il décède, donc au début des années 1880, malgré tout, l'industrialisation a continué son chemin et déjà un certain nombre de lois ont été votées. Déjà, la condition ouvrière, même relativement, s'améliore un peu. Et une de ces grandes questions à partir de là, ça va être d'essayer de penser des alternatives politiques dans une situation où, si je puis dire, la situation n'a pas fait que s'aggraver à proprement parler. Le propre de la première partie de l'industrialisation, et c'est pour ça que les courants romantiques avaient beaucoup de poids à ce moment-là, c'est qu'on avait l'impression que la situation s'était totalement dégradée, que l'ancien régime était meilleur, même en termes de conditions sociales, pour toute une partie de la population. Le Marx de la fin est celui qui cherche à comprendre, bien sûr, la persistance des inégalités sociales, de dégager une voie politique radicale, révolutionnaire, mais tout de même, il y a cette contradiction-là qui est présente, qui est, à mon avis, intéressante à penser, parce que c'est pas quelqu'un qui efface une situation de pire en pire sur tous les points, et ça, il le voit bien, et cherche à comprendre les contradictions du monde. Sinon, ça ne serait qu'un auteur parmi d'autres qui déplore la situation sociale, comme il y en a des dizaines au XIXe siècle.
Je suis sûr, Mathieu Arnoux, quand vous recommandez à vos étudiants de lire Marx, que vous insistez sur le côté mordant, voire saignant de son vocabulaire.
Alors c'est, je crois, je ne dois pas être le seul professeur d'histoire dans la salle, les étudiants actuels ont très souvent peur. Ils ne savent pas ce que c'est, et ils pensent qu'il ne faut pas, ou ils pensent qu'ils perdraient leur temps, ou ils pensent qu'ils ne vont pas comprendre. Il suffit d'ouvrir, c'est vrai que c'est un gros livre. Mais il suffit d'ouvrir le chapitre sur la journée de travail ou celui sur l'accumulation primitive de capital pour voir à quel point c'est un écrivain génial, à quel point sa capacité, par exemple, à construire des récits uniquement à partir d'extraits des rapports à la Chambre des Lords, c'est-à-dire en utilisant les paroles de l'adversaire, et ça emporte totalement le lecteur. Et là, on peut se poser des questions intéressantes. Je suis en train de m'enthousiasmer pour le texte. Qu'est-ce que je pense de la pensée qui est derrière ce texte? Et je crois que c'est quelque chose qui n'a absolument pas perdu de son efficacité, et il faut être capable d'ouvrir et d'affronter ça.
On va tenter une expérience, puisque nous sommes en public, pour une fois, c'est de donner la parole à tel ou tel. Je vois une camarade de Nanterre, là, par exemple, au deuxième rang, madame.
Oui, c'est moi.
C'est vous, oui. Allez, démasquez-vous et allez-y.
Alors, je me démasque. Donc, j'étais donc à une conférence Bon, excusez-moi, j'ai pas mémorisé le nom du professeur. Un
pas
très
grave,
grand professeur
italien. C'est pas le professeur Arnoux, c'est pas le professeur non. Ducange.
Donc, ce professeur a cité. Bon, malheureusement, je n'ai pas non plus la référence. Ah. Il n'a pas donné.
Allez-y, on va.
Allez-y.
Mais il a cité que Marx n'a pas non seulement écrit Le Capital ni des choses sur la lutte des classes, mais qu'il a eu également, il a également rédigé des textes visionnaires. Alors, en savez-vous un peu plus ?
Ah ben non, mais vous n'avez pas une question sur ce qui vous paraît valide aujourd'hui dans l'expérience de Marx ? Prenons les choses autrement, camarade.
Camarade, oui.
Il n'y a plus d'usines. Il y a de moins en moins d'usines. Alors, est-ce que ça ne rend pas invalide certaines des thèses de Marx ?
Il n'y a plus d'usines. Mais il y a l'ubérisation.
Ben voilà, par exemple. Oui. Et puis la division du travail. Tenez, monsieur, là.
L'ubérisation. Oui.
Monsieur, c'est Geoffrey qui tend le micro. Monsieur, je n'ose pas dire qu'il travaille dans une centrale nucléaire, parce que ça ne va pas être bien vu. Mais maintenant, vous êtes en télétravail, monsieur.
Oui.
Alors, est-ce que ça change les capacités de rébellion, d'organisation, d'émancipation dont parlait Jean-Numa Ducange ? Vous êtes à Paris maintenant pour travailler.
Vous me surprenez à me donner la parole en direct.
Oui, ben, si c'était Marie Byrne, elle en profiterait.
Je ne suis pas Marie Byrne.
Ah. Et est-ce qu'on peut encore être Marie Byrne ?
Mais par contre, même s'il y a beaucoup de développement au niveau mondial, on retrouve quand même des choses qui ont été... témoigner ici que, enfin, on voit se développer encore, enfin, les usines, elles existent encore au niveau mondial, même si elles s'éloignent peut-être un peu de notre monde à nous en France, quoi.
Mais vous avez raison d'introduire, parce qu'on peut finir là-dessus, et on va réentendre Marx une dernière fois. C'est bien de finir sur une vision globale, parce que si visionnaire il l'était, c'était peut-être dans le domaine de l'observation de la globalisation qu'il a toujours mis en scène, qu'il parle du commerce des épices au XVIIe siècle ou des États-Unis de l'époque de l'esclavagisme.
Les manufactures nouvelles s'établirent de préférence dans les ports de mer, centres d'exportation ou aux endroits de l'intérieur situés hors du contrôle du régime municipal et de ses corps de métier. De là, en Angleterre, lutte acharnée entre les vieilles villes privilégiées, les corporate towns, et ces nouvelles pépinières d'industrie. Dans d'autres pays, en France par exemple, celles-ci furent placées sous la protection spéciale des rois. La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquêtes et de pillages aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalèrent l'ère capitaliste à son aurore. Aussitôt après, éclate la guerre mercantile. Elle a le globe entier pour théâtre. Le Capital, 8e section.
Jean-Numa Ducange.
Oui, je pense que ce que décrit Marx dans les chapitres sur l'accumulation primitive du capital correspond mieux à certaines régions du monde que, évidemment, l'Europe occidentale. Il n'y a plus d'usines en Europe occidentale. Bon, c'est relatif, mais le nombre a été considérablement diminué. En revanche, le monde industriel... de par le monde, existe encore massivement. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, ouvrir Marx, alors c'est vrai que le livre 1 est extrêmement ardu et difficile. Althusser, parmi d'autres, disait à ses étudiants à l'époque qu'il fallait commencer par la fin. Non pas parce qu'évidemment, on se disait ça allait être plus court si vous commencez par le dernier chapitre, mais parce que certains chapitres étaient plus parlants sur ces descriptions, comme celles qu'on vient d'entendre. Et effectivement, des descriptions poignantes de ce système de dépossession généralisée qu'implique le capitalisme industriel, eh bien, décrit une situation qui existe quand même dans le monde sur toute une série de points. Donc ça me paraît effectivement parlant de reprendre ces textes pour n'évoquer pas uniquement la situation occidentale mais internationale. On évoquait tout à l'heure la division internationale du travail. Là, on en a un exemple assez finalement saisissant. Et là, directement à travers les mots de Marx, alors que parfois il faut effectivement changer de registre ou les analyser différemment pour comprendre comment on peut appliquer encore des théories de Marx au monde contemporain.
Très vite, Mathieu Arnoux, très vite, parce qu'il faut donner la place à la pub.
Oui, ces textes-là sont des textes passionnants parce que ça réutilise la substance d'articles de journalisme qui sont destinés en particulier à des journaux américains dans lesquels il prend des risques intellectuels très grands pour essayer de faire penser les gens et il rapatrie ces textes à l'intérieur du Capital en essayant de les articuler de manière systématique, mais c'est la première fois qu'on parle de mondialisation de cette manière-là.
Merci à vous. Schumpeter, qui n'était pas un partisan de Marx, disait « S'il reste de moi 100 ans après ma mort, autant qu'il reste de Marx 100 ans après sa mort, eh ben, je serai très heureux ». Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, à la tête de la technique, Franck Malabry, Geoffrey Marianne, Mathieu Leroy, Alain Thiez, Audrey Ripouille et invité exceptionnel, son prédécesseur Jacques Cigale.